Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Dans chaque épisode, j'essaye de vous proposer des sujets différents à explorer. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler des objets, des choses qui nous entourent. L'obsolescence programmée, la réparation, le recyclage, ce sont des mots et des concepts liés à ces objets et à la place qu'on leur donne. Mais je vous propose de réfléchir à une autre idée, la maintenance, c'est-à-dire l'art de faire durer les choses. Il y a quelques jours, j'ai changé de portable. Mon ancien téléphone, je crois que ça fait 5 ans, 4 ou 5 ans que je l'ai acheté. Je sais plus exactement. Bref, cette fois-ci, j'ai choisi d'acheter un portable reconditionné. Reconditionné, c'est un adjectif qu'on utilise pour les produits électroniques, comme les smartphones ou les ordinateurs. Un produit reconditionné, c'est un produit qui a déjà servi et il est examiné par un revendeur ou le fabricant avant d'être réemballé et remis en vente. Le portable que je viens d'acheter, il est comme neuf. C'est vraiment impressionnant. Et quand je le regarde, je me dis que c'est important d'en prendre soin pour qu'il dure longtemps. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai eu envie de réfléchir aux questions suivantes. Quelle relation on entretient avec les objets? Et surtout, comment on peut mieux en prendre soin? D'abord, on va s'intéresser à un concept qui va contre l'idée de faire durer les choses. L'obsolescence programmée. Ensuite, on va revenir sur l'importance de prendre soin des choses. Et sur le fait que ça veut aussi dire prendre soin des personnes qui font ce travail de maintenance. Et pour finir, on va évoquer différentes manières de faire vivre les objets plus longtemps, et donc de lutter contre leur obsolescence. Pour commencer, on va donc s'intéresser à ce concept qui s'oppose à l'idée de faire durer les choses. De nombreuses voix s'élèvent contre l'obsolescence programmée. On comprend l'importance de réparer les objets cassés ou les objets en panne. Mais on oublie parfois que c'est tout aussi important d'assurer leur maintenance. Mettre cette activité en avant, je parle du fait d'apprendre à entretenir les objets, c'est accepter que les choses s'usent avec le temps. S'user, c'est un verbe pronominal qui veut dire s'abîmer, se détériorer. Cette idée d'obsolescence, ça fait passer les activités de maintenance en arrière-plan. Mais en fait, qu'est-ce que c'est l'obsolescence programmée? Ça regroupe toutes les pratiques des fabricants qui réduisent délibérément la durée de vie des produits pour vendre plus. On distingue plusieurs types d'obsolescence. Il y a l'obsolescence technique, qui touche au fonctionnement des objets. Ça, c'est quand une pièce ou un composant d'un produit a une durée de vie limitée. On parle aussi d'obsolescence logicielle, quand il y a un dysfonctionnement du produit après une mise à jour. La mise à jour d'un logiciel, c'est quand on actualise un programme, une application, pour avoir la dernière version. Et enfin, il y a l'obsolescence marketing ou culturelle. Quand une nouvelle version d'un produit est disponible, l'ancienne est démodée. Elle n'est plus à la mode. C'est un moyen pour les fabricants de pousser le consommateur à renouveler son produit, à acheter la nouvelle version, alors que l'ancienne fonctionne toujours. Alors, évidemment, il y a tout un discours autour du fait que le fabricant reprend l'ancien modèle pour le recycler. Mais cette obsolescence marketing et culturelle, elle questionne pas du tout le fait que notre société est basée sur la surproduction et la surconsommation. Quand je dis « notre société », je parle des pays riches. Je le précise parce que c'est important de resituer son point de vue. Ça fait un petit moment que je vous parle d'obsolescence programmée, mais est-ce que vous savez comment est apparu ce concept ? C'est une pratique bien plus ancienne qu'on le croit. Elle date de la fin du XVIIIe siècle. Au moment de la révolution industrielle, des penseurs de l'époque ont commencé à réfléchir à la réduction de la durée de vie des machines. Ils se rendent compte que ce qui crée de la valeur, c'est le progrès technique. L'idée de l'obsolescence, c'est que les machines qui produisent durent moins longtemps. Comme ça, elles sont remplacées par des machines encore plus performantes. Et avec tout ça, il y a la promesse d'une hausse de la productivité. Les économistes défendent l'obsolescence en expliquant quel est le revers de la médaille du progrès. Le revers de la médaille, c'est une expression qui désigne le côté désagréable, le mauvais côté de quelque chose de bénéfique. Cette vision des choses, elle est contestée par les ouvriers et les artisans. Des mouvements ouvriers s'organisent parce qu'ils voient dans ce changement le risque d'une obsolescence de leurs compétences et de leur métier, plus largement. Dans tous les cas, avec des machines qui fonctionnent en permanence, c'est clair que ça a eu un impact sur le travail. Une autre période importante dans ce petit historique de l'obsolescence programmée, ce sont les années 1920. Aux États-Unis, à cette époque, le concept d'obsolescence va passer du domaine de la production à la consommation. Il y a trop de production et les entreprises commencent à se demander comment vendre tous ces produits. À ce moment-là, des marketeurs, des vendeurs, des publicitaires, des designers aussi, tout ce petit monde commence à se dire « on a une solution, on va développer le désir chez les consommateurs de racheter des produits grâce à l'obsolescence ». Ce lien entre la publicité et l'obsolescence, il s'est renforcé tout au long du XXe siècle. Même si cette obsolescence, elle n'est pas forcément nommée. Autour de nous, il y a plein de choses qui ont une durée de vie limitée. L'exemple le plus marquant, ce sont les produits jetables, les assiettes, les ustensiles, les verres en plastique, pour citer un exemple. Des produits à usage unique que, par définition, on ne peut pas entretenir. Ça aussi, c'est une forme d'obsolescence. De nos jours, quand on parle d'obsolescence programmée, on pense surtout à l'électroménager, aux appareils électroniques. Certains de ces appareils sont conçus pour ne pas durer. Des médias et des associations de consommateurs enquêtent sur ce sujet, et ça reste une question complexe. En France, depuis 2015, l'obsolescence programmée est un délit. Un délit, c'est une infraction, quelque chose qui est puni par la loi. Mais aujourd'hui, aucune entreprise n'a été réellement condamnée pour ce délit. Il y aurait plein de choses à ajouter sur les responsabilités des consommateurs, celles des pouvoirs publics et des entreprises aussi. L'idée que j'ai envie de retenir, c'est que, sans la maintenance, sans une forme d'entretien, tout objet, une voiture, un portable, un pont ou encore une œuvre d'art, tout objet s'use, se dégrade et finit par se casser, voire par disparaître. On parle d'innovation, on parle aussi de recyclage, de réparation, mais pas assez de l'importance de la maintenance, je crois. Et pourtant, c'est un enjeu majeur pour réfléchir aux relations qu'on entretient avec les objets et le monde qui nous entoure. Dans cette deuxième partie, on va voir que prendre soin des choses, c'est aussi prendre soin de celles et ceux qui s'en occupent. Derrière cette idée, il y a les travaux de deux sociologues, Jérôme Denis et David Pontille. L'année dernière, ils ont publié un livre qui s'appelle « Le soin des choses ». Le sujet qui les intéresse, le sujet sur lequel on va se concentrer dans cette deuxième partie, c'est la maintenance. Tous ces gestes qu'on doit faire pour prendre soin des objets, les entretenir, se soucier de leur fragilité, de leur état de dégradation. Ils définissent la maintenance comme un art, l'art de faire durer les choses, un art qui est en voie de disparition. Quand je regarde mes grands-parents, ma grand-mère, toute sa vie, elle a fait de la couture, elle répare ses vêtements au lieu de les remplacer. Avec mon grand-père, ils ont plein de connaissances autour du jardinage et du bricolage. Le bricolage, bricoler, ça signifie réparer quelque chose par soi-même. On est passé de ce monde, d'une génération où on essayait de faire durer au maximum les choses, à un monde où la maintenance, elle est totalement mise de côté dans le modèle de fabrication des objets. Aujourd'hui, on remplace. On n'a pas besoin de maintenir. On cherche plus à faire durer. Et d'ailleurs, c'est parfois moins cher de remplacer que de chercher à faire durer ou à réparer. La maintenance, elle est souvent invisibilisée, tout comme les personnes qui font ce travail. Je pense aux femmes dans l'espace domestique ou aux minorités dans les bureaux. Cette semaine, on se demande comment mieux prendre soin des objets. Mais une autre question qui apparaît, c'est pourquoi ce travail et les personnes qui font ce travail, elles sont invisibles. Dans les pays riches, tout est fait pour qu'on n'ait pas à se préoccuper de l'état des choses. Et les personnes qui en prennent soin se retrouvent à l'arrière-plan. Ce qui est désirable, c'est l'objet en lui-même. Il faut que cet objet soit parfait et bien conçu. Quand on rend visible son entretien, selon ces sociologues, c'est un aveu d'échec. Cette vision des choses est l'une des conséquences de la modernité et de la société de consommation. Ce modèle de la consommation et de la surconsommation, il installe une relation très spécifique aux objets. Dans cette relation, on est usager, on est utilisateur, on se sert d'un objet et, quand il arrête de fonctionner, on le jette. Mais une autre relation est possible. Quand on prend ces mêmes objets et qu'on se dit qu'on pourrait essayer de s'en servir encore un peu plus longtemps. Quand on commence à se soucier de cet objet, de ce qu'il pourrait devenir et comment il pourrait durer, ça devient une chose. Se soucier, ça veut dire s'intéresser, faire attention à quelque chose. Dans cet épisode, je vous parle beaucoup d'objets et de choses. Ces deux mots, on pourrait se dire qu'ils sont synonymes. Et pourtant, dans leur livre, Jérôme Denis et David Pontille font une petite distinction entre ces deux termes. Ce qui fait la différence, d'après eux, c'est pas l'objet, c'est pas la chose en elle-même. C'est la manière dont nous, on s'en sert. Pour nous expliquer ça, ils prennent l'exemple d'un robinet. Si on le traite en objet, un robinet, dans une cuisine ou dans une salle de bain, ça sert à faire couler de l'eau. Mais si on se préoccupe de l'état de ce robinet, on découvre que c'est aussi une somme de matière en mouvement, une chose qui est en constante mutation, une chose sur laquelle on peut agir. C'est une vision un peu philosophique, mais fascinante. Se dire que si on est à l'écoute des objets qui nous entourent, on peut développer une autre relation avec les choses. La maintenance nous connecte au monde d'une manière beaucoup plus profonde. L'enjeu, c'est de sortir de ce qu'on appelle le confort de l'insouciance. C'est de réaliser que ce qui est évident pour nous, ces objets qui sont fonctionnels, on a simplement besoin d'appuyer sur un bouton pour qu'il marche. En fait, sortir du confort de l'insouciance, c'est réaliser que ça ne va pas de soi. C'est pas évident, finalement. Ces objets durent dans le temps grâce à d'autres humains, à des savoir-faire. Quand j'entends cette expression, prendre soin, ça me fait penser à l'éthique du care. C'est un concept un peu trop complexe pour le résumer en quelques minutes. Mais j'aime bien la définition de la philosophe américaine Joan Tronto. Elle explique que le care, c'est une activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Quand elle dit que ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, comprendre, ça signifie inclure. Les réflexions autour du care et de la maintenance nous invitent à prendre en considération à la fois les personnes qui font ce travail de maintenance et les choses dont elles prennent soin. En faisant cette démarche d'être sensible aux objets qui nous entourent, on commence à voir la manière dont les choses composent notre monde et la manière dont elles nous relient aux autres êtres humains et aux autres espèces. Les mainteneurs et les mainteneuses, les personnes qui font ce travail, ce qu'elles nous apprennent, c'est ça. Comprendre le fonctionnement des choses et nous aussi en prendre soin, pour qu'on puisse vivre aussi bien que possible dans notre monde. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va évoquer différentes manières de faire vivre les objets plus longtemps et donc de lutter contre leur obsolescence. Si la durabilité, la maintenance, ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous encourage à consulter un site internet créé par l'association HOP. HOP, c'est un acronyme pour Halte à l'obsolescence programmée. Cette association a créé un site qui s'appelle Produits durables, avec produits et durables au pluriel. Sur produitsdurables.fr, HOP donne des conseils et des outils concrets aux consommateurs pour faire durer leurs objets. Sur ce site, on retrouve notamment leurs 6 règles d'or pour éviter l'obsolescence. Pour résumer, première chose, c'est important de connaître ses besoins. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? C'est toujours une bonne question à se poser. Deuxième conseil, évitez d'acheter neuf. C'est ce que j'ai fait avec mon portable, justement. L'occasion, le prêt, le troc ou encore la location. Le troc, ça veut dire l'échange. Beaucoup d'options existent pour faire des économies et éviter de produire un nouvel objet. Troisième idée, pour essayer de lutter contre l'obsolescence, acheter durable. On le sait pas forcément, mais pour chaque produit, des critères existent pour choisir l'objet le plus durable pour soi. Une autre idée, c'est bichonner ses produits. J'aime bien ce verbe, bichonner. C'est une manière plus familière de dire prendre soin. L'entretien, ça reste l'un de nos meilleurs alliés pour construire une relation durable avec nos objets. Un cinquième conseil, tenter la réparation. Réparer son produit, c'est lui donner une nouvelle chance et éviter le gaspillage. Et enfin, une sixième et dernière règle, donner une seconde vie à nos objets. Quand on veut se débarrasser d'objets dont on n'a plus besoin, il y a des solutions de recyclage et surtout des solutions qui allongent la durée de vie du produit, comme le don, la revente. À travers ces quelques pistes d'action, il y a une invitation à réfléchir à la nécessité de développer un nouveau rapport au produit, à réfléchir à l'importance de sensibiliser, d'inciter les consommateurs à entretenir leurs objets, à les réparer et les aider à changer leur vision des choses. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite !